Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bienvenue dans cet épisode du Raisin et tes papilles. T'as envie de faire un fou rire, hein, Edgar? Vas-y, fais-le. D'accord. Allez, je recommence. Bienvenue dans cet épisode du Raisin et des papilles. On est de retour. Nous sommes de retour pour un nouvel épisode. J'ai pas mis longtemps à venir aujourd'hui parce que, alors je suis à moi, si déjà je parlais français, ce serait déjà pas mal. Ouh, je crois que ça va être difficile. Allez, je recommence. Bienvenue dans cet épisode du Raisin et des Papilles. Nous voici de retour avec un nouveau vigneron à découvrir. Alors, pas à découvrir parce que je l'avais déjà enregistré, mais la technique fait que parfois, ben, les cartes SD pètent une durite. C'est le cas de le dire. Donc, il fallait le refaire et puis j'ai attendu un petit peu parce que je trouve que c'est bien de voir comment ils évoluent aussi, les vignerons. Alors, je suis dans une petite ville où a eu lieu la première chasse au trésor l'année dernière, où il y a des vignerons fort sympathiques, dont l'un d'eux est avec nous aujourd'hui. C'est Monsieur Neumeyer. Salut Jérôme.
Salut Michael. Salut Edgar.
Comment tu vas?
Au top.
On fait au top. Ça marche.
Ouais, je suis bien content de participer au podcast, de se revoir.
Ce début d'année était parfait.
Ce début d'année calme, tranquillement.
Calme, ok. C'est bien. C'est bien. Et j'ai le nouvel acolyte, le rire et le sourire. Parce qu'il fait partie de ces sourires qu'on entend de loin et on sait que c'est lui. Quand il est de bonne humeur. Hein,
il est toujours de bonne humeur.
Il y en a deux comme ça, il y a Fischbar qui a un sacré sourire, il y a Jean Dietrich qui a un sacré sourire, et il y a Monsieur Edgar.
Comment tu vas, yeah. Edgar?
C'est voilà. En
merci,
plus,
merci.
Les deux sont potes, je pense qu'on va bien s'amuser. Alors pendant cette heure qu'on est ensemble, on va découvrir tes vins, on va parler évidemment de tes terroirs, mais la première question que j'ai envie de te poser, c'est quelle est ta définition à toi du vin?
Alors, ma définition du vin, finalement, ça revient au plaisir. La convivialité, la joie d'être ensemble comme à midi. C'est vraiment comme ce midi-là, c'est vraiment ma définition toute première.
C'est vrai qu'on aime bien organiser un peu des apéros géants. Il y a juste quelques micros autour, mais finalement.
Ouais, ça ne change pas tant que ça. Ouais.
C'est une.
L'important, c'est de passer du bon moment ensemble. Et
quel est ton premier souvenir d'enfant que tu as dans ton domaine?
Alors là, mon premier souvenir dans le monde du vin, ce serait dans les vignes, ça c'est certain. Ce sera ni à la cave, ni autour d'une belle bouteille, ce sera dans les vignes avec mon père et mon grand-père.
Il utilisait déjà
Jérôme. Eh oui, là, la main d'œuvre familiale, grand classique, grand classique. Non, tout à fait, ouais, le premier souvenir, c'est être avec mon grand-père dans la remorque du tracteur, dans les vignes en train de se balader, puis ensuite d'aller voir la vigne tranquillement.
T'as toujours eu tout de suite eu envie de reprendre. Enfin, c'était une évidence ou
c'était pas du tout une évidence. Moi, j'ai repris relativement tard parce que j'ai repris quand j'avais 30 officiellement à 32 ans.
Ok.
Donc j'ai eu le temps de faire d'autres trucs. J'avais envie de voyager. J'avais envie de voir d'autres structures aussi. C'était pas du tout une évidence parce que j'ai quand même étudié l'agriculture, la biologie. Mais après, je suis allé voyager en Afrique, en Asie. J'ai fait d'autres postes. J'ai bossé dans des bureaux d'études, dans une banque, tu vois, donc des secteurs qui n'ont rien à voir avec le vin. Et ça m'a fait du bien un peu en termes d'ouverture, de voir un peu comment d'autres gens bossaient, comment d'autres cultures se développaient ailleurs, d'autres goûts aussi, d'autres gastronomies. Je suis aussi parti comme assistant sommelier. Je suis parti faire d'autres vendanges dans d'autres pays. Ça m'a ouvert un peu les yeux. Ouais.
T'as voyagé où ?
Je suis parti en dehors du monde du vin, je suis essentiellement resté en Afrique de l'Ouest. Donc j'ai bossé au Bénin, j'ai bossé en Guinée, j'ai bossé au Mali, j'ai bossé en Tunisie aussi au Maghreb. Après, je suis parti en Inde parce que j'avais envie de découvrir le monde du thé. Du thé.
Intéressant.
Du thé, ouais. Qui se rapproche beaucoup du monde du vin parce qu'ils ont aussi une notion avec les terroirs, avec une notion de savoir-faire énorme.
Ouais.
Finalement, on se rend compte que le monde du thé, le monde du vin, c'est très proche.
Très proche, ouais.
Parce que c'est des histoires de faire la part des choses sur différents produits. Finalement, réussir à se dire, tiens, il y a énormément. L'opportunité des possibles est très vaste. Et ça, comme toujours, dans le monde du vin, ça nous paraît toujours évident en tant qu'Européens. Mais, parce que voilà, c'est un peu. L'Europe et le bassin méditerranéen, c'est un peu le berceau de la viticulture. Mais le monde du thé, finalement, c'est un autre focus comme ça sur un produit alimentaire. Et finalement, ben voilà, les humains, ils ont toujours tendance à faire des segmentations, quoi. Ils classifient les vins, ils classifient les produits, ils classifient les thés, ils classifient les terroirs, etc., etc. Et puis ils créent une civilisation autour d'un produit alimentaire.
C'est génial, ça te permet quand même une super ouverture d'esprit. Et tu vois que même avec cet élargissement sur de différentes boissons alcoolisées comme non alcoolisées, bah, au final, ça te permet de te recentrer sur d'autres choses. Et même dans tes vins après derrière, à te dire de par rapport à ce que tu as appris, même si c'est pas le même produit final, il y a beaucoup de ressemblances après par rapport à ce que tu apprends, quoi.
Complètement. Et puis aussi, ça permet, moi je dis toujours, ça permet de se décentrer. C'est-à-dire, on a souvent tendance à dire, voilà, en France, les patries des grands vins, à se centraliser sur sa propre culture. Que ce soit alsacienne, française, etc., etc., européenne. J'entends souvent des gens dire, oh, la plus grande gastronomie, c'est telle ou telle nationalité. En fait, on se rend compte que quand on va à l'extérieur, il y a tout autant de cultures vastes, diverses et surtout sophistiquées, quoi, qui poussent le bouchon très loin. Je pense, là, il y a pas longtemps, avec des potes, on est allé goûter des vins dans le Jura, là, le week-end dernier. C'était la percée du vin jaune, mais on a visité des vignerons, on est allé goûter des vins, etc. Et on débarque dans un resto, aux influences japonisantes, comme ça, le comptoir du Kokage à Mouchard, j'y pense, là. Et puis, ils nous font goûter des sakés. Tu vois, par exemple, sur le saké, là encore, un très bel exemple, quoi. De dire comment on peut décliner un produit sur une vaste.
Il y en a beaucoup, beaucoup de restaurants qui s'y mettent à ça. Tu vois un exemple du Jura. Il y a aussi Philippe Troussard dans Les Sources de Caudalie à Arbois, justement.
Complètement.
Qui fait énormément, parce qu'il a eu le titre quand même de Cura Master et qui fait beaucoup de formations là-dessus. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et donc, du coup, avec les vins du Jura et le saké, c'est des termes de température et d'oxydation aussi qui sont assez proches. Donc,
parce que je fais un petit aparté là-dessus, mais c'était juste pour montrer un peu que chaque fois que tu voyages, tu te rends compte qu'on n'est pas si différent. Les gens localement, ils cherchent toujours à différencier un peu le bon du moins bon, et donc à faire des classements, finalement.
Forcément, comme on vient pas forcément du même pays ou autre, faut voyager et être là-bas et s'imprégner de la culture et de la gastronomie. Donc effectivement, dire d'un coup, ah mais la meilleure gastronomie c'est là-bas, ben c'est après de nombreux voyages. Tu peux pas faire d'un coup parce que tu étais dans un restaurant qui a telle influence de telle gastronomie, où tu pourras faire ton classement objectivement, surtout, quoi.
Et puis tu vois, par exemple, qui aurait cru que moi je vois l'arrivée du vin nature il y a maintenant, on peut dire facile, 20, 25 ans, tu vois, l'émergence de ce monde du vin nature. finalement, il a été beaucoup influencé, par exemple, par le monde des bières craft.
Bien sûr.
Mais qui l'aurait cru ?
Personne.
Dire, qui l'aurait cru dans les années 70-80 que le monde des bières craft allait influencer le monde du vin ?
Bah déjà, dans les années 80-90, 2000, qui aurait dit qu'à Noël, tu mets une bière sur la table ?
Ouais.
Gastronomique déjà.
Tout à fait,
Que les grands tables mettent de la bière à leur carte.
Mais moi, je trouve que c'est extrêmement rafraîchissant.
Et que je trouve que je vois ce que la bière, la bière a un peu bousculé les vignerons qui se sont dit, il va falloir que elle aussi.
La bière l'époque aussi.
Ouais, c'est ça. Et elle a aussi sur le marché aujourd'hui, les gens boivent plus de bière que de vin. Mais le thé aussi a un petit peu bousculé le café aussi parce que.
Et l'époque, franchement, moi quand j'étais gamin, quand je traînais dans les pattes de mes parents au caveau et que je rencontrais les clients, souvent quand ils venaient acheter des bouteilles de vin, une des premières questions, tu vois, c'était vraiment centré sur le vin, il vient d'où. Ils avaient un souci du local qui c'est existe ça. Toujours. Hein.
Oui.
Mais maintenant, il y a une question qui émerge souvent avant cette question du local, c'est le vin, on le fait comment et qu'est-ce qu'il y a dedans ?
C'est ça.
Et ça, ce mouvement un peu entre deux époques, il s'est fait assez brutalement, assez rapidement. Et bon, après les vignerons se sont adaptés. Se sont adaptés. Je suis pas en train de dire qu'avant ils en mettaient forcément plus dans le vin d'ailleurs, mais c'est un changement de sensibilité d'époque quoi.
Mais toi, tes parents ont bien pris l'évolution que toi tu as donné, enfin la patte que tu as donné toi au domaine, à savoir les macérations, ce genre de choses. Comment ils ont vécu
Ils l'ont très bien vécu. Alors mon père l'a pas forcément vu parce que il est décédé, mais ma mère elle l'a très très bien vécu. Alors là, elle adore boire des nouveaux vins. J'aime pas cette expression des nouveaux vins. On va plutôt dire des vins qui sont travaillés différemment. Mais elle a vraiment eu aucun problème. Des habitudes de consommation, mais elle a eu aucun mal à l'aborder en tout cas. Et ouais, mes parents, ils avaient déjà la sensibilité de dire on a envie de faire des vins de personnalité, des vins qui ont un peu la gueule du terroir et puis des vins qui nous ressemblent. Ils avaient dans leur chemin, ils ont fait ce qu'ils avaient envie de faire, je pense. Ils sont arrivés là où ils avaient envie d'aller. C'est ça qui est important en fait. C'est on discutait en off là avant de prendre le micro, de dire moi ce que je trouve toujours important, c'est que les vignerons ils soient heureux de ce qu'ils ont dans la bouteille, fiers et ils vont là où ils ont envie d'aller sans. Parce que des fois on se prend un peu la tête.
Ils ne trichent pas avec leur propre valeur.
Ils ne trichent pas. Ils sentent là où ils ont. Ils sentent là où ils sentent bien là où ils ont envie d'aller avec leur vin quoi.
Ouais.
Au-delà de grammes de soufre ou filtration ou cépage ou terroir, ils sentent bien dans leur basket.
Ouais,
quoi.
C'est un différent type de besoin effectivement, parce que ce besoin de satisfaction est quand même, à la fin quand t'as un produit fini où t'es fier de ce que t'as fait, que t'y es allé jusqu'au bout, c'est un besoin que t'as t'as envie de ressentir ça continuellement. C'est vrai que si c'est un besoin, on parlait juste avant mise en bouteille précoce ou de se dire ah mais ça répond pas à l'attente ou à certaines demandes, ben ce besoin là après ça sera plus un besoin plus financier ou autre ou commercial. Exact. Que t'as
après,
pas forcément envie, donc forcément
après bon il y a la réalité des choses qui fait que ça reste une entreprise et il faut des fois faut que ça reste cohérent avec le monde dans lequel on vit, mais faut quand même se sentir bien dans ses baskets, parce que sinon on fait pas des produits sinon ça se ressent. Ça arrive des fois dans des successions familiales qui se passent plus ou moins bien, mais que les gens, la génération d'après se sentent un peu contraintes de faire des produits qui leur plaisent pas.
Oui.
Là, ça transpire tout de suite.
Ce qui est intéressant, c'est aussi de retrouver cette patte traditionnelle de chaque domaine et de qu'elle puisse suivre au fil des générations. C'est vrai que
on est aussi dans une région où parfois le passé familial ou la famille peut être un poids parfois. Plus qu'un avantage, pas pour tout le monde, hein, évidemment, mais et d'avoir un nom, c'est pas forcément évident à défendre. Mais pour revenir à ton domaine à toi, juste une petite carte de visite. Okay. T'as combien d'hectares actuellement
Alors pour une petite carte d'identité. Donc moi, je m'appelle Jérôme Nemeyer. Je suis vigneron avec ma sœur et mon beau-frère à Molsheim. Donc c'est une quinzaine d'hectares de vignes sur trois villages: Molsheim, Mutzig et Abolsheim. Des terroirs sédimentaires.
Ouais.
Essentiellement, donc des grès, des marnes et des calcaires, et une façon de faire du vin, on essaye justement des vins qui nous ressemblent, c'est-à-dire l'identité de nos terroirs, nos pratiques et des vins qui soient un peu qui aient de la mâche, qui aient du caractère, des amers, un côté salin, voilà.
Et travaille avec un grand cru en particulier, quoi.
Tout à fait, ouais, le Brudertal, à Molsheim, ça c'est sur du calcaire du Muschelkalk. C'est vrai que ça c'est un peu le fleuron de la maison, c'est là où on essaie vraiment de faire des vins plus pointus, gastronomiques, avec une définition précise du terroir. On a d'autres crus et aussi d'autres sensibilités, mais c'est vrai que le grand cru c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que le dossier du grand cru il avait été défendu notamment par mon père et donc ça c'est toujours un clin d'œil que je lui fais, ouais, c'est sûr. Au moment dans les années 90, sûr. Ouais. Mmh. Des 80 et 90.
Parce que bon, alors c'est vrai qu'on a le Brudertal, alors nous on connaît aussi un peu le Leymen.
Oui, ouais.
Puisqu'on a fait la chasse au trésor là-bas, donc forcément c'est devenu une petite deuxième maison. On est quoi sur une dominante calcaire, je crois, d'Avelsheim jusqu'à Mutzig, hein, c'est marne calcaire.
Alors c'est ça, tu trouves des marnes et des calcaires, et après les grès ils arrivent au niveau de Mutzig, qui est en gros l'ouverture, la vallée de la Bruche. La vallée de la Bruche, elle conditionne vraiment la météo, les climats de notre secteur qui est le nord du Bas-Rhin. On est dans le nord. C'est vrai que, d'ailleurs, pour faire un petit aparté, on parle souvent de l'Alsace dans sa globalité parce que culturellement, on est très homogène. Mais d'une manière climat et géologie, on a une énorme diversité. Alors, tu l'as plusieurs fois mis en valeur dans ce podcast, mais c'est toujours bien de le rappeler parce qu'un vignoble qui fait, entre 70 et 80 kilomètres de long sur toutes les familles de sous-sols quasiment présentes au monde... et plusieurs vallées vosgiennes qui conditionnent à chaque fois le climat, ça fait une diversité de fous furieux qu'on met dans une seule boîte, l'Alsace. C'est à la fois incroyable et c'est à la fois très complexe quoi, de se rendre compte.
C'est pour ça qu'on attend toujours les concours de sommellerie sur l'Alsace.
Oh yeah.
Et là, j'imagine les rôles de rire.
Mais c'est là où même moi, quand tu montes une chasse au trésor, tu peux jouer avec les différents cailloux, même si tu rentres pas dans les... Tu vois, ça reste un jeu. Mais les gens, on se dit, ah, c'est ça, mais en fait, c'est un Riesling. Ouais, mais ça ressemble pas à ce que je connais. Parce qu'en fait, le caillou est totalement différent.
Moi, je prends toujours l'exemple de la vallée du Rhône. Tu vois, tu comparerais jamais des vins du Rhône Nord et du Rhône Sud. Et en Alsace, c'est ce qu'on fait systématiquement, finalement.
Bah, je me souviens d'un monsieur qui était aveugle, qui avait goûté un vin de chez Lissner, qui m'a dit, écoutez, monsieur, j'ai envie de faire. Ce vin, il est bon, mais il me donne envie de cracher. En fait, il avait une telle salivation, tu vois, le sel qui s'est formé, il était surpris. Il m'a dit, mais j'ai jamais ressenti ça. J'ai dit, c'est ce qu'on appelle des vins de lieu, quoi.
Ouais, mais c'est des vins lieux-dits, mais effectivement, sur la partie nord, quand même, de l'Alsace, hein, ouais. Dans le Bas-Rhin, on a quand même des vins avec énormément de salinité, quand même. Que ce soit effectivement, comme tu disais, sur les mouches en calque, que ce soit aussi sur les grès, hein, parce que ça,
les grès, ouais. Les olites aussi. Ouais.
Donc, c'est sûr, dans la partie au Rhin où c'est beaucoup plus granitique, où on va avoir des acidités quand même beaucoup plus resserrées, mais avec énormément d'épices par contre. Ça qui est,
et puis un côté assez aérien, ouais.
Et très aérien à la fois.
Métamorphique, quoi.
Et dans les deux cas, avec des capacités d'évolution juste.
Puis c'est vrai qu'on est dans un secteur où il y a quand même, je crois, 4 grands crus, Volksheim, il y a le Bergbieten, il y a Stier.
Et Dallenheim.
Ouais, Dallenheim aussi, ouais, il y a Langelberg. Il y a le Marlenheim, c'est
Steinklotz,
Stierkopf, c'est autre chose. Et puis il y a le Brudertal, quoi. Toi, t'es sur Stierkopf aussi.
Oui, ouais. Sur Stierkopf, exact. Donc là, c'est Marno calcaire grésseux. Donc là, c'est quand même un terroir extraordinaire aussi parce qu'on a la chance d'avoir des marnes, du calcaire et des grès. Et j'ai une petite parcelle de vigne là-bas. Par exemple, Christophe, dont tu parles souvent, qui est participé dans le podcast, il en a aussi un peu des vignes là-bas. Enfin, même pas mal de vignes là-bas.
Monsieur Linnelaube, si vous nous écoutez.
Voilà, big up. Et ben après, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on se posait la question des vins à présenter, moi, je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas sympa de faire un petit clin d'œil à la récente modification des AOC Alsace qui incorpore les macérations.
Alors, rappelle-nous juste, c'est quoi, pour les gens, c'est quoi une macération?
Alors voilà.
Du coup, on va passer à la dégustation et on continuera la discussion. Ça, c'est bien pour le jingle.
En fait, une macération, c'est très simple. C'est-à-dire que c'est une pratique qui consiste à faire macérer des raisins, comme une technique de vin rouge, avec des raisins qui sont destinés initialement à faire du vin blanc.
Okay.
Et donc, ça amène à un produit qui est un peu hybride. C'est-à-dire que ça te permet de garder la fraîcheur d'un blanc tout en ayant un peu un grip tannique issu de la macération qui va structurer ta bouche avec des tanins pour un peu muscler, entre guillemets, la bouche, pour lui donner un peu plus de corps.
En gros, pour faire simple, tu as deux solutions. Enfin, ou la presse directe, c'est-à-dire tu vendanges et tu presses, ou alors tu vendanges, tu macères dans des grandes cuves en fonction de 2-3 semaines, en fonction de ce que tu veux. Donc, et après, tu presses. C'est ça ?
C'est ça. Okay. Après, tu peux, t'as plusieurs variantes, c'est sûr. Tu peux choisir de faire des grappes entières, de l'égrappage ou un mix des deux, un millefeuille.
Après, t'as une micro-macération qui peut se faire en cagette aussi.
Tout à fait. Oui. Tu peux faire une micro-macération en cagette. Tu peux faire, là, comme on a fait une micro sur ce vin, vraiment une macération de quelques jours.
Alors moi, je voudrais que tu nous parles de ce vin qui a, je crois, on a goûté un vin depuis le début parce que Edgar avait soif. Il n'a pas pris petit déjeuner, donc il fallait un peu de vitamine.
La vitamine, bah, y a tout ce qu'il faut dans le vin.
C'est ça. Mais que j'aime beaucoup. Alors, on est sur un vin avec une étiquette violette et blanche. Elle veut dire quelque chose, cette...
Alors, cette bouteille, c'est vraiment une bouteille, pour le coup...
C'est un vin de copain.
Ouais, c'est un vin de copain, c'est un vin d'amis même. C'est une cuvée éphémère qui s'appelle Branco de Negrao. En fait, un de mes amis qui s'appelle Guillaume Negrao, qui est sommelier breton. Les Bretons sont partout, comme tu le sais, Michael. Hein.
Ils ont les chapeaux.
Et voilà, ils sont sur tous les quatre coins du monde. Il est venu pendant la vendange 2021. On est devenus amis, et puis il m'a aidé à la cave. Et puis à un moment, on avait envie de faire une cuvée justement pour un peu marquer le coup. Puis tous les soirs, il dormait à la maison, on goûtait des vins à l'aveugle. Et puis un soir, il me présente un vin à l'aveugle. C'était un vin slovène d'un vigneron qui s'appelle Simkic. Donc des raisins qui sont macérés, mais très peu de temps, tu vois. Pour vraiment, presque l'idée d'un blanc taché, quoi. C'est-à-dire garder la fraîcheur d'un blanc et puis avoir un tout petit, des tout petits amers comme ça en fin de bouche, avec une légère macération. Donc on se dit, bon, banco, on fonce là-dessus. On a fait ça avec un pinot blanc sur des marnes, là, sur un terroir qui s'appelle... Bah, c'est, là, pour le coup, c'est le Limen.
Okay, c'est le, Limen,
c'est le sud du Limen, pour être précis, okay. Ouais, avec des pinots blancs. Et on a mis ça en grappe entière pendant 3 jours dans des bacs à fruits, avant de faire un pressurage assez long. Et ensuite, un élevage en pièces sur l'Itotal, vraiment très peu interventionniste, même pas du tout d'intervention pour le coup. Ça a bien fermenté en 2021, ça c'était cool, on n'a pas eu trop de problèmes. Et pour finir la démarche, Guillaume, moi je dis à Guillaume, mais bon là le vin on le met en bouteille et tout, mais on n'a pas d'étiquette. Puis Guillaume me dit mais ma tante elle a ses heures perdues, elle fait du dessin, des peintures, etc. Je dis bah voilà, comme ça on aura toute la démarche en une bouteille. Donc elle a fait cette étiquette là et puis on a fait une petite série quoi. Finalement, j'aime beaucoup les cuvées éphémères. J'en fais pas tous les ans, mais ça me permet un peu des fois de me faire des plaisirs en sortant de ma gamme de vins que je fais tous les ans. Ouais.
Moi j'aime bien assez les vignerons quand ils font des cuvées éphémères. Je me dis parfois je râle parce que elles sont tellement bien que t'as envie de les retrouver à chaque fois, tu vois. C'est souvent le débat que j'ai avec Maxime Verly parce que lui il adore faire des cuvées comme ça éphémères. Et le truc c'est que les cuvées éphémères qu'il fait, elles sont super bonnes quoi. Donc t'as pas envie qu'elles soient.
Rien n'interdit de les prolonger si vraiment. Des fois je me dis ça peut permettre de faire évoluer la gamme.
Mais en général tu as fait beaucoup d'éphémères ou c'est une des premières
Ah non, j'ai fait par exemple pendant longtemps là pour le coup c'était pas vraiment une éphémère parce que je faisais tous les 2-3 ans je faisais une cuvée avec mon importatrice du Japon qui venait faire elle-même l'assemblage pendant les vendanges avec des jus. Après j'ai fait ça une fois avec un sommelier belge, une cuvée éphémère qui est venue là encore, et puis il avait pris il avait vendu le volume dans son restaurant. J'ai fait une cuvée éphémère qui s'appelle Envol pour mon père, la dernière vendange qu'on a partagée ensemble en 2018.
Que j'ai toujours.
Ouais, voilà.
Mes parents ont adoré aussi.
Ah bah merci, ouais. Et là, c'était pour le coup la cuvée en vol avec mon père. C'était les quatre cépages blancs du Brudertal vendangés ensemble, vinifiés ensemble en demi-sec là. Ça a aussi une belle salinité qui est équilibrée avec la sucrosité.
Une super matière. Il y a un équilibre justement entre les deux qui donne un vin vraiment d'élégance et fraîcheur à la fois. C'était vraiment sublime. J'ai beaucoup aimé ce vin.
Ben merci. Ouais. Voilà. Après, c'est toujours pareil. On est vignon. Quand on aime, on compte pas. Après, on a tendance à s'enflammer un peu dans plein de cuvées. Bon, faut savoir raison garder.
Après, t'es en Alsace aussi. Hein.
Voilà, c'est ça.
On change pas d'équipe qui gagne.
Voilà. Ouais.
Moi, tu vois, moi j'aime bien quand j'ai fait Eric Ham, il me fait, ouais, tu sais, maintenant chaque année j'ai enlevé une cuvée. Ben en fait, il a fait exactement l'inverse. Il a chaque année, il a rajouté.
Je dis la même chose, j'y arrive pas. Oh, c'est
qu'est-ce
terrible.
Que vous dites
Et en question avec tout ça, avec aussi ton père et ton grand-père, que je pense qu'effectivement qui ont beaucoup influencé tes choix de vinification quand même. Est-ce que tu as eu d'autres influences ou des personnes où tu t'es dit j'ai envie de faire comme ça. Quel a été le déclic sur ton choix de maintenant aujourd'hui quoi.
Mais jusqu'à maintenant d'ailleurs. Moi je me dis toujours que le vin que mon vin préféré de ma production, je me dis toujours que ce sera le millésime prochain. Même maintenant, je pense à. Alors ça, c'est une question qui est très vaste, Edgar, parce que ça va de certaines personnes vraiment de ma famille jusqu'à des sommeliers comme toi à l'époque qu'on bossait ensemble, des vignerons qui m'ont beaucoup influencé, même aussi au final des gens qui sont moins connus dans le monde du vin, mais qui sont des particuliers qui ont parfois aussi un regard très aiguisé sur le vin. Je sais pas si je vais pas citer trop de gens parce que je pense pas que ce soit le moment, mais j'ai plus envie de répondre franchement collectivement quoi. Mais effectivement, j'ai certains vignerons des fois, tu vois, avec des vins très ciselés qui m'ont présenté des gammes qui étaient cohérentes et où à chaque vin tu te dis non mais là il a poussé encore la barre plus haute. Ça, par exemple, ça m'a influencé la cohérence de certains vignerons sur leur gamme. Ça m'a ébloui, hein, franchement. Après, dans le monde du vin aussi, ce qui m'a vraiment fait grandir, je pense, c'est que des fois, tu rencontres des personnalités qui, par une ou deux phrases, qui résonnent en toi plusieurs jours, plusieurs semaines, des fois, t'obligent à prendre un peu position. Parce que des fois, t'as tendance, et moi le premier, à rester un peu dans le flou sur certaines questions qu'on te pose. Des fois, il y a des gens qui t'obligent un peu à te dire, mais attends, là, maintenant, non. Maintenant, je te demande un peu d'aller plus précisément et de qu'est-ce que tu veux faire avec tes vins, tu vois. Donc, ouais, ça, c'est sûr qu'il y a des. Et c'est aussi pour ça que, avec Pierre, on a monté un caviste à Molsheim, Pierre Jacob, un ami sommelier, parce que moi je goûte, plus on goûte et plus on apprend.
Caviste écrivain, allez-y absolument.
Ben merci, ouais. C'est aussi pour dire, on avait envie de ramener les vins qu'on boit ensemble, les vins qu'on apprécie, les vins qui nous font vibrer. Et moi je reviens à ce terme de raisonner. Tu sais, des fois quand tu goûtes vraiment un produit, moi chaque fin d'année je me dis toujours quels sont les 5-6 vins qui t'ont influencé cette année, qui t'ont vraiment marqué.
Ouais. Ceux qui t'ont donné de l'émotion.
Du coup,
et
ceux qui résonnent.
Quels sont tes vins de 2023 qui t'ont
qui m'ont impressionné.
En Alsace, allez, puisqu'on parle de l'Alsace, il y a un truc que t'as découvert en Alsace en 2023, tu te dis waouh. Même un tes potes, un vin que t'as
découvert. Mais il y en a plusieurs. En fait, il y en a plusieurs.
Parce que, on est un peu nombreux en Alsace. Quoi.
Ouais. Non, mais parce qu'en plus là, quand tu m'as posé cette question, le premier vin qui m'est venu à l'esprit, c'était pas un Alsacien. C'était il y a pas longtemps. Tu vois, on parlait d'influence. J'ai eu la chance. Là, on a été reçu par un vigneron qui s'appelle François Rousset-Martin dans le Jura.
Oui. Exceptionnel.
Un gars super, très simple, mais très très profond quoi, vraiment un super mec qui nous a reçu là et qu'on a goûté certains vins et tu vois, c'était un moment où je me suis dit tiens, ça m'apprend moi en tant que vigneron où est-ce que je veux aller, ça m'a influencé et il nous a présenté une superbe ligne de qui notamment un Savagnin là sur un terroir qui était juste dingue Et là, alors évidemment, tu parles de choses et d'autres, de vinif, dans les vignes, tu parles plein de choses, mais moi, ce que je retiens toujours à la fin, c'est l'important, c'est l'intention que tu donnes. Mmh. C'est-à-dire, tu vas accumuler plusieurs efforts à plusieurs niveaux, au niveau de la vigne, de la vinif, dans ton discours, pour présenter les vins, tu vas faire plusieurs choses. Mais le plus important, c'est d'avoir de l'intention de faire bien les choses.
Ouais.
Et ça, tu vois, on en a reparlé avec François, c'était vraiment un très bon moment. Pour le coup, par exemple, ça, c'était une influence. Après, il y en a d'autres. Je veux dire, par exemple, Guillaume Negrao avec le vin de Simkitch, il m'a beaucoup influencé. Les jeunes sommeliers, ils m'ont beaucoup influencé parce que ils m'ont ouvert les yeux sur, par exemple, l'importance en ce moment de la fraîcheur des vins. Alors que moi, j'avais grandi avec mon grand-père, mon père, ils étaient très influencés sur la notion de maturité. Mmh. Et là, il y a eu une bascule entre la maturité et la fraîcheur. On change d'époque. Ça, c'est important d'ouvrir les yeux là-dessus. Après, il y a plein d'autres trucs. On peut parler aussi de la... On en parle assez moins rarement parce que c'est moins sexy, mais par exemple, comment réfléchir sur la distribution de tes vins ? Tu vois, qui t'as envie de travailler ?
Ouais.
Dans des restaurants, dans des cavistes, ouais. Ou dans certains pays. Tu vois, ça c'est un truc, on l'aborde assez rarement, mais la distribution, l'aval de la filière, c'est passionnant à vivre, à réfléchir, et aussi à se demander, tiens, la question de la rareté en ce moment dans le monde du vin.
Ouais.
Ça c'est aussi un thème que j'aime bien aborder, quoi.
Je trouve qu'il y a, on parlait des
mais j'ai pas répondu à ta question, mais bon, c'est toujours pareil, on digresse et puis
on digresse souvent.
C'est l'esprit du podcast aussi.
C'est pour ça qu'on aime ça. Mais on va revenir sur le vin qu'on a goûté, Edgar. Donne-moi tes impressions premières.
Bah, justement, malheureusement, comme je suis une personne qui
tu n'as pas de mémoire, c'est ça.
De vin, non, c'est-à-dire que je n'en ai plus dans le verre pour pouvoir en reparler à nouveau. Ça, c'est les vieilles habitudes. Non, après, au niveau du vin, quand on parlait de cette micro-macération, hein, que ce soit même au nez ou en bouche, on ressent quand même une certaine puissance aromatique qui est due à cette macération et qu'on va retrouver en bouche par rapport à cette pointe tannique quand même en fin de bouche. Après, ça reste des pinots blancs, donc moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment cette expression sur la fleur blanche, cette pointe mirabelle aussi qui vient titiller un peu le nez. Qu'on trouve beaucoup en texture aussi au niveau de ce vin, dû du coup à la macération, mais qui donne des vins avec, surtout comme on est sur des sols de Marne, avec quand même beaucoup d'explosions sur l'acidité et qui vient vraiment envelopper le palais, qui est quand même assez dingue, quoi.
Et puis cet essor de la macération, finalement, ça a ouvert tout un spectre en Alsace. Déjà, je pense à des cépages qui s'y prêtent. Là, pour le coup, le pinot blanc, c'est plutôt rare en macération, mais.
Ouais.
Des cépages avec des amers comme les muscats, les Gewürztraminer. Là, ça a explosé en Alsace, clairement, le Sylvaner.
Surtout le pinot blanc, si on parle de macération, là, quand on regarde en face de nous, la robe est hyper claire. Parce que forcément, les pinot blancs, c'est pas un cépage qui est hyper teinturier ou coloré.
Complètement.
Mais c'est vrai que pour un pinot blanc, je crois il y a longtemps que je n'ai pas fait un waouh avec un pinot blanc. J'ai plutôt l'impression qu'on l'a un peu oublié avec l'essor du vin nature. On est un peu moins pinot blanc, plus sylvaner d'ailleurs. Je trouve qu'à l'inverse, je trouve que le sylvaner a été sublimé par les vins de paysans, etc. C'est un cépage qui a été retravaillé. Le pinot blanc, j'ai souvenir de chez Aquilé, un pinot blanc qui font, qui m'a beaucoup plu. Et celui-là, c'est merveilleux. Hein. Une belle salinité.
Surtout quand ce sont des purs pinot blancs.
C'est ça. C'est ça.
Ouais. C'est même, c'est vraiment un truc.
Ils sont très
bizarre,
cousins, les deux. Hein.
Ouais. Ouais.
C'est des cépages qui sont cousins. Mais c'est joli. Et ce que j'aime bien.
Et on parlait d'influence, tu vois, c'est de la macération. Moi, les premiers vins de macération que j'ai bu à l'époque, c'était plutôt des Italiens. C'était pas des Géorgiens. Okay. Je pense à Foradori, je pense à. Tout à fait, qu'on avait goûté ensemble à Strasbourg, Edgar, ouais. Et c'est vrai que c'était plutôt ce côté-là de la Méditerranée et pas la Géorgie que j'avais. Enfin, depuis, j'ai goûté. Maintenant, tu peux goûter des vins de macération un peu partout, mais ça aussi, c'est une influence qui ouvre le spectre des vins d'Alsace sur quelque chose qui n'existait pas ou peu avant. Même si, je fais juste un aparté, mais c'est toujours marrant de se dire, ouais, on est la première génération à faire tel ou tel type de choses, tu vois.
Ouais.
Et en fait, quand tu grattes,
bah non, en fait.
C'est rarement vrai.
C'est ce qu'expliquait Vincent Grosse. C'est que toujours lui, son recommencement. Son grand-père faisait déjà des macérations, sauf qu'on les appelait pas de macérations.
Voilà. Sauf qu'on mettait les pas manatures. L'accent là-dessus.
Mais surtout qu'on mettait pas entièrement en bouteille. C'est soit on va faire des macérations à part pour la réutiliser derrière dans les cuves ou dans les fûts pour sauver d'une telle d'une quelconque déviance ou autre.
Ouais.
Enfin, quelconque
ou même,
à proprement parler.
Quand je posais la question à des vignerons, les plus vieux vignerons encore en vie là à Molsheim, il t'explique que non, nous aussi on joue avec les macérations, notamment dans les pressoirs, en allongeant la durée des pressoirs, en égrappant dans les pressoirs, en mettant des grappes aussi dans les tonneaux. Ouais. Donc c'est intéressant de se dire qu'en fait on n'invente rien, mais on écrit une nouvelle page.
Vous écrivez une nouvelle page.
Et je
nouvelle...
pense aussi au vin nature d'ailleurs. Oui. Parce que l'autre fois on a fait une petite recherche à Molsheim, il y a un salon des vins le 1er mai où Edgar nous avait fait le plaisir d'intervenir l'année dernière.
Sur les Gewürz, c'était
magnifique. Qui est un des plus vieux salons des vins d'Alsace. Tu vois, il a plus de 80 ans. Et donc on avait fait une recherche pour les prospectus dans les années 30 de ce salon. Donc c'était intéressant de voir comment les vignerons dans les années 30 proposaient des vins de Molsheim et de la région de Molsheim. En gros, c'est l'esprit du salon, c'est le salon du nord de l'Alsace. Et il y avait des vignerons dans les années 30 qui faisaient des prospectus sur le prospectus du salon qui écrivaient grand vin naturel. Donc c'était quand même intéressant de voir qu'ils mettaient aussi l'accent là-dessus, sur le fait que c'est pas des vins qui sont trifouillés, qui sont arrangés, qui sont bidouillés, qui sont trop sophistiqués, etc., etc. Donc cet esprit de cycle, moi j'y reviens souvent parce que je trouve ça très intéressant de dire on n'est pas on invente rien, on remodèle quoi quelque part. Et puis, j'ai bien envie de vous faire goûter le second vin. Quoi.
Bah allez, on passe au deuxième vin.
J'ai soif.
C'est parti. Ça.
On passe au deuxième vin.
Je sais pas quand est-ce qu'il vient, l'autre, par contre. Là.
Il décolle.
Ah, il décolle.
Il est en route.
Ah, ça va, t'as pas trop de... de dégorgé, en plus, ça va.
Ouais, ça va. Mais il faut quand même pas... Tu vois, il a tendance il est pas sauvage, mais...
Ouais, mais quand tu serres, et forcément, ça vient après derrière.
Oui, c'est bon.
Ah, putain, hier soir, j'avais ouvert la bulle de Lisée Bertrand Jousset, tu vois, en rosé.
Ouais, c'est bon, ça.
Et j'aurais dû le mettre un peu plus au frais.
Moi.
Si, c'est bon, hein, mais ça...
Moi, j'ai ouvert un cidre de chez Monsieur Jacques.
Ça par contre, cidre énorme.
Cidre rayon fort.
Bah, cidre énorme que je me suis fait.
Ah ouais, c'était novembre 2021 en plus.
Ouais,
c'était...
Bah, celui qui m'a éclaté là, c'était la semaine dernière, c'était Widre de chez une collaboration de Cyril Zanks et de Andrea Kalec.
Okay.
Donc c'est des pommes et syrah.
Ah, Edgar toujours pointu.
Ouais, Edgar.
C'est exceptionnel. C'était très 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 bon. Merci Jean-Val d'avoir sorti cette bouteille.
Alors là on est sur un pétillant naturel. On n'en a pas enregistré souvent. C'est toujours bien. Alors moi je les bois de mieux en mieux. Je trouve qu'ils ont vachement évolué. C'est quelque chose que je bois beaucoup avec gourmandise. Un peu parfois comme une bière, hein. T'as pas envie d'ouvrir une bière, tu fais un peu de net.
C'est un peu le but.
C'est un peu ça. Et c'est ce que j'aime bien dans cette démocratisation que je veux donner au vin, c'est que là on est clairement sur des vins de copains et des vins de partage. Et je dis toujours, il y a deux formes de vins. T'as celui qui est là, on en parle pas forcément, mais il est là, il fait partie du moment. Et t'as celui où, à un moment donné, tout le monde s'arrête. On va parler du vin. Souvent les pétnats, on s'arrête pas forcément dessus, mais à leur façon, ils sont là. Mais je trouve que en Alsace, je dois dire, ça fait 5 ans qu'on fait le podcast, je trouve qu'ils ont évolué d'une manière exceptionnelle. C'est de mieux en mieux. Je sais pas ce que t'en penses, toi, sur l'évolution du pétnat.
Le pétillant naturel, je trouve que c'est effectivement quelque chose qui a beaucoup évolué. Hein. Quand c'est arrivé déjà, surtout en Alsace, on savait pas de quelle manière le prendre, le servir, même dans la restauration.
Ouais.
C'est après avoir goûté que on s'est dit, mais effectivement, c'est une bulle un peu plus intense, avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de fruits aussi. Effectivement, le seul problème entre guillemets qu'on pouvait avoir, c'était sur l'effervescence d'ouverture qui
pouvait repeindre le plafond.
Repeindre le plafond. Hein,
dans un gastro, c'est chiant.
C'est très chiant, et surtout quand les bouteilles explosent dès qu'il y en a une qui s'entrechoque.
Et quand la cliente est habillée en blanc.
Mais après, c'est quelque chose qui a été super intéressant parce que à la fin, j'en servais beaucoup à l'auberge du Vieux-Puy. Où à la fin sur un dessert la cerise ou pavlova qui qu'il faisait en fait sur début de saison où on a, enfin début de saison que je raconte, qui faisait vraiment ça début d'été. Et je servais des pétillants naturels de chez Brahma Ventoux, la cuvée Ventoux, qui sont des purs grenaches, alors que ce sont des anciens chefs de cave de domaine champenois, et qui sont installés sur Banyuls et qui faisaient des pétillants naturels juste exceptionnels. Il y avait aussi de nos amis Mireille et Pierre Mann, hein, que j'embrasse du Mas des Caprices, Fitou, qui font aussi le Muscat, qui était une bulle de muscat et de avec un tout petit peu de macabre, mais qu'on arrivait à placer par exemple sur le dessert au citron de chez Gilles Goujon. Donc non, c'est quelque chose qui est venu avec le temps, mais qu'on a réussi à dompter dans les accords mésévins et à dompter de plaisir.
Ouais, il faut l'appréhender.
Exactement.
Ouais. Alors toi, ton pet nat, alors déjà il a une couleur, parce que forcément les gens le voient pas forcément, il a une couleur orange.
C'est ça. Donc comme on, pour continuer le fil de cette dégustation, c'est un pet nat de macération. Donc ça, là pour le coup, c'est une macération assez courte, hein, c'est 7 jours, des muscats, des océrois et du pinot gris récoltés ensemble et grappés. La première fois que j'avais fait cette cuvée, c'était en 2017, je crois. Ouais, 2017-2018, et j'avais fait 2 semaines de macération, et je trouvais que l'extraction tannique était peut-être un peu trop forte avec l'effervescence. Donc j'ai réduit un peu, voilà, on cale, on apprend, on fait des erreurs. Et là, l'idée de cette cuvée, c'était effectivement un vin de copain. Avoir la macération un peu emmenée par l'effervescence, parce que tu sens le grip tannique, mais il est pas trop présent.
Non, mais ce que je trouve hyper intéressant sur la finale, comme c'est aussi une macération et en bulle, je trouve qu'il y a une finale sur le caramel, sur le tabac et en même temps sur l'orange amer.
Mais il y a une belle fraîcheur
qui te revient et qui te donne une mâche hyper intéressante et ça c'est super joli. En fait.
La fraîcheur est là. Et moi, je trouve que c'est on l'avait déjà enregistré d'ailleurs.
Ouais, et après, d'une notion un peu plus, pour revenir, enfin après, moi je veux jamais trop tomber dans le côté technicien du truc, mais ce que j'aime bien moi aussi dans le pet nat, c'est que tu ramasses des raisins à maturité, parce que comme je fais le tirage après les vendanges, t'as pas besoin de rajouter une liqueur ou quoi que ce soit, de refaire une seconde fermentation. Donc c'est vraiment la méthode ancestrale, te permet de ramasser les raisins à maturité, ce qui est toujours cool. Et la deuxième chose que j'aime bien, moi je les dégorge pas, parce qu'au final je me dis ça reste sur latte. Et le vin, il évolue tranquillement dans sa bouteille, il s'enrichit.
Dans ses lits.
Exactement. Il s'enrichit sur ses lattes, tranquillement. Donc, ça, j'aime bien l'esprit de ce vin-là.
Surtout de maintenir le vivant et qu'il puisse évoluer
à son rythme.
Ouais. Et à son rythme aussi.
Ouais, je trouve que voilà, c'est la fraîcheur. Après, je trouve qu'il se garde aussi de plus en plus, hein, les pet nat. Je trouve que la qualité, l'évolution des pet nat fait qu'on les garde de plus en plus.
Je pense que les gens, ils ont un peu. Les vignerons locaux ou même ailleurs, ils ont un peu découvert la pratique et ils ont affiné un peu leur méthode, ouais, au fil du temps. Mais moi, je voulais pas faire un pet nat qui soit dégorgé ou qui ressemble à un crément. Je voulais vraiment une différence d'approche, parce que je fais déjà, mon père faisait déjà du crément et on continue de faire du crément sur un chardonnay du Schaeferstein, donc je voulais pas singer la méthode champenoise. Je voulais une méthode ancestrale dans ce cas-là de brut.
Ouais. Moi, je trouve ça gourmand. En plus, tu parles de pavlova.
Ça y est, on a faim là.
Tu vois, la pavlova.
Sur dessus, mais même sur des accords plus simples, sur une tatin.
Ça, c'est mon rêve.
Abricot, romarin, là.
Mon rêve, ce serait de faire un accord avec plusieurs pâtissiers, tu vois, qui font les grandes signatures de la pâtisserie française.
Il y a quand même une super pâtisserie qui a ouvert à Mutzig. Enfin, ça fait un petit moment, mais pâtissier qui venait de Palace Parisien
Felder, ouais.
Felder, ouais.
Felder à Mutzig. En fait, dans le coin, on a de la chance.
T'en as un peu plus loin qui est un ami et que j'aime beaucoup et qui est venu à la chasse au trésor, Luxigel à Stille.
Oui, on est alors tout à fait. Mais on a vraiment beaucoup de chance, hein, dans le coin, que ce soit Josmerer à Dorlisheim, Klug à Sousse-les-Bains, Christophe Chalitsky à Molsheim, qui fait le succès, qui est une pâtisserie quand même depuis, je crois, 3 ou 4 générations à Molsheim. C'est toujours des trucs fantastiques.
Ouais. Et Luc qui est venu à la chasse au trésor, il a ramené Non, tu l'apéro.
Ou sinon, très, très honnêtement, pour moi, les meilleurs classiques de la pâtisserie française que j'ai goûté, c'était les haras à Strasbourg. Où,
ah bon
justement, je retrouvais son nom, c'était la chef Tintran okay. Qui fait tout ça, où j'ai mangé le meilleur Paris-Brest de toute ma vie.
Ouais.
Edgar, toujours pointu.
Ouais, moi je suis un amoureux des profiteroles, donc en général, les profiteroles, j'y goûte partout. Et il y a longtemps que j'ai pas mangé les bonnes profiteroles. Si! Quant à Louise, avait des bonnes profiteroles. T'avais
manger la Ligo.
À l'époque, c'était Maxime qui avait fait même la pâte à choux était faite maison. C'était incroyable.
C'est vrai que ce serait cool un jour d'envisager un podcast accord mets et pâtisserie là. Ouais, ce serait grand ça.
Nous, c'est ce qu'on avait fait à un moment il y a quelques années avec Dorian. On est allé chez Jean-Pierre Rich et qu'on avait ramené des pâtisseries et qu'on avait fait des accords avec Sébastien en fait.
Et je pense que sublimer la gastronomie française. Là, en ce moment, je travaille avec un historien parce que on fait des recherches sur Strasbourg. Avec Bischoff, avec Charles Brandt et sur l'histoire qui nous sort des trucs et donc là je l'ai lancé sur l'histoire du vin à travers les différents rois Henri IV et compagnie. C'est incroyable tout ce qui te sort comme information.
Ah ben, ouais, y a de la matière.
C'est dingue.
Hein.
Hein.
Là, je sais pas, je suis en train de regarder si je le trouve. Mais il y avait aussi un professeur d'histoire, Müller à Strasbourg, Monsieur ouais. Müller à Strasbourg, et qui a édité de nombreux livres avec son institut. Et c'était
ah il arrive.
Bah, malheureusement,
il arrive.
Il y a un petit peu car notre meilleur retardataire est arrivé.
Il est juste en retard depuis. Je viens pour 12h30, d'accord. Je pense qu'il doit avoir un décalage horaire. Et c'est le teasing pour le prochain épisode. Il y a Monsieur Kess qui arrive.
Je me suis dit s'il allait arriver sans bouteille en plus.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.